Ce matin aussi, encore un peu avant, ce matin, à travers les prières, finalement, moi, j'étais encouragé. Parce que je crois que nous abordons le Seigneur, le Maître, de la bonne manière, avec humilité. Seigneur, j'ai entendu des prières. Seigneur, viens agir dans ma vie, qu'il n'y ait plus des choses partagées. Nous reconnaissons qu'il y a des choses difficiles. Il est le seul à pouvoir faire cela. Glorifier son nom ne veut pas dire avoir une espèce d'arrogance, mais le célébrer, lui, qui est le Tout-Puissant, qui est au-dessus de tout. Lui, l'agneau immolé, mais l'agneau sur le trône, et élever son nom. Je crois que, finalement, tout ce que nous faisons lors d'un culte est là pour élever le nom de Jésus-Christ. Il est élevé, puisque le Père, dans sa souveraineté, l'a élevé au-dessus de tout, parce qu'il s'est humilié. Alors, nous avons raison. Et je crois que le Père a entendu ce matin les prières. Moi, j'étais encouragé. Je crois que c'est ça aussi la croissance d'une église. Quand on vient au pied du Maître, on dit « Seigneur, nous voyons, nous acceptons la vérité, nous avons chanté ces chants, nous avons chanté des chants absolument merveilleux ce matin. J'aurais envie de recommencer. Vraiment, mon seul abri, c'est toi. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous. Et là, il y a de vraies libérations. Vraiment, soyons encouragés et continuons à marcher dans la vérité et l'humilité. L'humilité, ça ne veut pas dire servilité, mais l'humilité. Il est Dieu, nous sommes ses créatures, rachetées, sauvées par le sang précieux de Jésus-Christ. On le répète tellement que, est-ce que parfois on n'en perd pas le sens? Donc vraiment, soyons encouragés. Ce matin, mon thème, je le dis, ce sera la porte. La porte. Jésus-Christ est la porte. Peut-être plus tard, je vous parlerai, peut-être un autre titre, les portes. Mais ce matin, la porte. Vous savez, il y a des expressions. Quand j'étais dans la vie professionnelle, nous avions des formations, les cadres ont plein de formations. Et alors, il y avait une époque où il était de bon ton de dire à ses collaborateurs: soyez libre, sentez-vous libre, ma porte est toujours ouverte. C'est une grave erreur. Une grave erreur, parce que vous ne pouvez plus rien faire de propre. Hein. Vous attirez souvent les importuns. Hein. Finalement, on aurait besoin d'entendre le choix. Mais enfin, c'était ma porte est toujours ouverte. Hein. On entend dans nos milieux chrétiens, le Seigneur a ouvert une porte dans ma vie, le Seigneur a fermé les portes. Alors, je ne sais pas ce que cela évoque pour vous, en tout cas, ouverture ou fermeture. Eh bien, écoutez, les deux ont raison. Une porte, effectivement, c'est fait pour cela. Être ouverte ou fermée. Hein? Une porte, ça évoque aussi un accès limité, d'une certaine largeur, d'une certaine hauteur. De toute manière, un passage obligé pour passer d'une pièce à l'autre, d'un espace à l'autre, d'une zone à un autre. Hein? Donc, à la fois, il y a séparation et ouverture. Une porte, c'est aussi le moyen de franchissement d'un obstacle permettant un passage, mais un passage contrôlé. Ah, on aime moins ça. Contrôlé par une autorité. Hein, j'aurai peut-être l'occasion de redévelopper ça, mais ce matin, je vais me concentrer sur la porte. Il y a une notion aussi, des fois, de limite dans la porte. J'en reparlerai, là, pour le coup, ce matin. Entrer par la porte étroite. Alors, je vous invite à prendre dans l'évangile de Jean, nous allons lire du chapitre 9, verset 35, jusqu'au 10, verset 11. Jean 9, verset 35, c'est un peu la fin, vous vous souvenez, il y a, je crois, 15 jours à peu près, je vous ai parlé, je sais une chose, sur l'aveugle-né, l'aveugle de naissance. Et en fait, ce qu'on va évoquer ce matin, c'est un peu une des suites de cet épisode. Hein, je vous rappelle donc le contexte, l'aveugle de naissance qui Jésus va rendre la vue, qui va se présenter aux prêtres, qui vont dire « mais qui c'est qui t'a rendu la vue ? Il a des démons, c'est pas possible, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, il blasphème, etc. » Et finalement, cet aveugle qui a retrouvé la vue et qui est heureux de cela, sait que c'est Jésus, il ne connaît pas bien Jésus, Et finalement, il va se faire jeter, il n'y a pas d'autre mot, par les autorités religieuses en disant ça va pas, t'es disciple d'un type qui va pas. Alors au verset 35, il nous est dit ceci, « Jésus apprit qu'ils avaient chassé, qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. » Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui avaient entendu ces paroles et lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On lira également dans Exode 12, les versets 5 à 7, où il est encore question de portes. Il y aurait beaucoup, il y a plus de 150 références à ce terme de porte dans la Bible. C'est une notion vraiment importante. Exode 12. Pas ma Bible habituelle, donc. Exode 12, versets 5 à 7. C'est l'institution de la Pâque, hein, lorsque le peuple hébreu est esclave en Égypte et Dieu a décidé de les libérer et il donne les instructions à Moïse pour célébrer la Pâque, c'est-à-dire le passage. Hein. Donc les consignes pour choisir l'agneau qui devrait être sacrifié, nous allons lire cela. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Puis au verset 21 et 24, je ne vous lis pas tout hein, cet épisode, 21 à 24, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et vos enfants à perpétuité. » Jésus donc est la porte du salut, et à travers cet épisode d'Exode, c'est d'abord la porte vers un refuge, une protection. Ceux qui sont dans la maison sont protégés par le sang de l'agneau. La seule chose à faire a été de franchir la porte et de croire à la valeur du sacrifice de l'agneau, c'est-à-dire croire Dieu, parce que c'est Dieu qui avait dit « Vous immolerez un agneau ». Donc, ce n'est pas croire à la valeur du sacrifice comme un acte magique, c'est croire à la valeur du sacrifice parce que c'est Dieu, l'Éternel, qui a dit à Moïse, vous immolerez. Nous le savons, il préfigure ainsi le sacrifice de Christ. La porte dont les linteaux ont été aspergés par Moïse et Aaron, par le sang de l'agneau immolé, est une protection. Dieu épargne du jugement, le jugement à ceux qui ont trouvé refuge dans la maison, dont la porte est marquée du sang de l'agneau, et le destructeur ne peut entrer. Donc là, on a à la fois une porte à travers laquelle il faut entrer, et ensuite, elle est fermée, il y a une protection. La protection du sang, il est dit, l'Éternel verra le sang, verra l'œuvre de Christ, et passe. Ceux qui sont à l'intérieur sont toujours des pécheurs. Mais Dieu honore l'œuvre de l'agneau, le sang sur les portes. C'est donc un refuge, et ça c'est une notion qu'on a du mal, on se sent si fort, si suffisant. Là c'est clair, il faut entrer dans cette porte. Vous noterez au passage que là on parle des deux montants et du linteau, qui agencé autrement nous redonne la croix aussi. Ces montants et ces linteaux sont en bois, et le sang, il a bien coulé sur la croix. Jésus est la porte qui aussi ouvre un nouveau chemin. Et ça, nous le voyons dans la lettre aux Hébreux. Il nous est dit dans Hébreux 9, je crois, peut-être du verset 8, « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. » Tant que le premier tabernacle subsistait, c'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et un peu plus loin, dans Hébreux 10, au verset 18, « Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Ces textes nous parlent de la transition du régime de la loi, avec ses rites et ses ordonnances, qui ne peuvent jamais régler définitivement le problème du péché, vers le régime de la grâce et de la vérité inaugurée par Jésus-Christ. Il est donc bien cette porte qui nous ouvre une voie nouvelle. C'est ce qui est repris dans Jean 1, et tout l'évangile de Jean va être tourné autour de ce thème. La loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus est la porte, c'est une porte unique. Jean 14, qui a été lu tout à l'heure, au verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans Jean 7, au verset 44, il y a la réciproque du théorème, si j'ose dire. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Il y a l'œuvre conjointe, et on sait qu'elle est opérée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour venir au Père, pour être réconcilié avec le Père, ce n'est que par Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Cela nous est confirmé plus ailleurs dans l'Écriture. Acte 4, verset 12, ça a été dit dans les prières. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Dans 1 Timothée aussi 2 au verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, une seule porte, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en ce propre temps. C'est la porte unique. Alors là, cette porte, elle est particulière. L'image qui me venait, c'est une porte, vous savez, comme ces portiques qu'il y a dans les aéroports, et puis maintenant dans bien d'autres lieux. Mais c'est intéressant, il faut passer sous ce portique. Et là, j'allais dire, tout y passe sous le portique. Nos corps. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé. Alors, on passe. Là, par exemple, je ne passerai pas, moi. Parce qu'il y a une boucle métallique sur ma ceinture. J'ai le truc du micro. Ça ne passerait pas. Eh bien, nos corps, nos vêtements. Donc, finalement, tout ce que nous donnons à paraître. Tout ça, ça doit passer sous le portique. Et le portique, il ne s'occupe pas de veste. Ça, c'est... Pour lui, c'est transparent. Il regarde, il sonde. Ah, il voit les eaux, il voit là. Voilà, il voit tout. Et aussi, il n'y a pas que notre corps. Il y a nos valises, nos bagages, nos fardeaux. Et il y a des choses qu'il faudra laisser. Tout ce qui pourrait blesser, empoisonner, faire exploser l'avion dans lequel on va monter. C'est intéressant comme image. Il va falloir laisser nos bagages, nos valises, les valises de nos vies. Elles vont devoir passer sous le portique. Enfin, là, c'est à côté, parce que c'est des détections plus puissantes. Hein. Donc, le corps n'y résisterait pas, je crois, c'est pour ça qu'ils les vont passer à côté. Hein. Et là, il y a les rayons X. Et vous voyez, j'aime bien cette image de la porte, le portique. Le peuple hébreu a dû rentrer sous la porte. Imaginez-vous, même sur le plan naturel, il y a quelque chose entré sous une porte pas très haute. On peut... Difficile de rentrer comme ça. Il y a quelque chose. Oui, il faut s'humilier, j'en dirai un mot. Sous ce portique, tout est scruté. Mais c'est normal, il s'agit d'un si grand salut que tout doit être amené à la lumière. Et si ce n'est pas du premier coup, eh bien vous savez ce qu'on fait ? On refait un tour au portique. Si ça a sonné, ils ne vous disent pas « Oh, bah, c'était ça, ça. » Non. Enlever ça et repasser. Des fois qu'il resterait quelque chose. Le sang de Jésus, il y a le passage initial où nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était offerte. Ça, c'est le passage initial. Et c'est important. Parce que qu'est-ce qui se passe là ? C'est on reconnaît qu'on a besoin d'un refuge. Pétard, excusez-moi, mais c'est ça qui m'a touché dans les prières ce matin. Que l'on commence à reconnaître qu'on a besoin d'un refuge. Parce que la vraie liberté, elle viendra par là. Quand on va comprendre, quand on va saisir qui il est, ce qu'il a fait et ce que nous étions. Ça a été rappelé aussi par Jean-François. Qui il est ? La valeur de ce sacrifice. Vous allez dire, on parle tout le temps. Mais oui, parce que c'est ça qui change véritablement une vie et qui libère, si on reconnaît. Mais oui, j'avais besoin d'un refuge. Ne retombons pas dans, finalement, une forme d'arrogance où tout va bien, on recache. Le portique est toujours là. Et j'aurai l'occasion, c'est pour ça que aujourd'hui je voulais te parler de la porte. Parce que c'est toujours par cette porte-là, par ce portique-là, le portique où il y a le sang de Christ par lequel on va devoir passer. Et repasser encore. Parce qu'il reste des choses à dévoiler. Pour conserver aussi cette image, à l'aéroport, il y a plusieurs contrôles d'identité. Alors vous allez me dire, quand même, une fois qu'on est dans le circuit, c'est difficile de sortir. Va savoir. Je vous rappelle que dans la salle des noces, se trouvait un invité. Je n'ai peut-être pas tout compris là-dessus, mais qui n'aurait pas dû être là. Il était entré, mais il n'avait pas le vêtement qui allait. Il y a plusieurs contrôles d'identité. Le Seigneur veut nous arracher toutes les fausses identités qu'on a pu mettre, qu'on a pu revêtir, qu'on a pu se fabriquer, qu'on nous a collées. Allez! On enlève. Il y a plusieurs contrôles d'identité. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. et je t'aime. Et je t'aime. Alors il faut enlever les vieilles peaux. Et il y a plusieurs contrôles d'identité. Il y a une marche. Nous avons, il y a quelque temps, cette semaine de jeûne sur le perfectionnement des saints. Ce que je voudrais partager ce matin, c'est que il y a la chose initiale, indispensable, pour que cette vie vienne par la repentance et la foi, et la vie du Seigneur vient nous inonder. Mais il faudra repasser par cette porte. Peut-être retenez cette image du portique qui scrute tout et qui nous invite aussi où sont analysées nos valises. Nous avons bien du mal, nous sommes tellement habitués à faire notre valise de la même façon et de la porter de la même façon. Et là, elle est scrutée, elle est nettoyée. Jésus-Christ aussi est, alors, la porte. Et je regardais ce texte, on va le relire. Parce que dans, il y a plusieurs choses, on le voit dans Jean 10 au verset 16, je n'ai pas été lire jusque-là, mais il dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Plusieurs textes, et je voudrais insister un petit peu là-dessus, font allusion que l'œuvre de Christ, elle est pour les Juifs et pour les païens. C'est compris dans ce texte de Jean, c'est aussi dit, c'est repris par Paul, et nous allons lire ça dans 1 Corinthiens 20, 1, verset 20. 1 Corinthiens 1, verset 20. À partir de 1 Corinthiens 1, verset 20, où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je citerai encore le passage dans Éphésiens 2, versets 11 à 22, en particulier les versets 14 et 16, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alors, c'est un thème récurrent et un élément important du plan du salut et de la compréhension de la fin des temps aussi. Il est la porte pour son peuple, le peuple hébreu, et pour nous les païens. Et là, nous avons quelque chose à retirer. Les Juifs veulent des miracles, dit Paul. Pourquoi? C'est en lien avec le texte initial. Dieu n'a pas oublié son peuple, mais ce peuple a reçu les promesses, les oracles de Dieu, de qui est né le Messie, ne l'ont pas reconnu comme tel, pour un bon nombre. Et nous voyons dans l'évangile de Jean toute cette opposition grandissante. L'évangile de Jean veut nous montrer que Jésus est bien le Christ. Il est bien cette porte. Et là, il y a une opposition qui va grandissante. Je ne peux pas étaler sur tout, mais on voit dans Jean 6 avec le pain de vie. Si vous mangez mon sang et buvez mangez mon corps et buvez mon sang, vous ne pouvez pas être en communion avec moi. Et ces choses vont scandaliser, vont heurter. Il va y avoir des séparations. Dans Jean 8 avec la femme adultère, il va y avoir de nouvelles séparations. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Dans Jean 9, avec l'aveugle-né, pareil. Qu'est-ce qui se passe, en fait, là? Ce peuple qui a reçu les promesses, mais qui a aussi reçu la loi, s'est approprié la loi et en a fait un joug. C'est très humain. Et cela nous parle, et cela nous concerne. Parce qu'aujourd'hui, qui a reçu la parole de la vérité? C'est nous, peuple de Dieu, qui avons reçu la nouvelle naissance. Prenons garde à ne pas prendre cette vérité comme quelque chose que nous allons asséner aux autres. Qui sommes-nous pour cela? Nous sommes des rachetés. Ne croyons pas, allons pas un peu vite en disant « ces pharisiens, ils n'ont rien compris ». Nous avons le même risque. Combien de fois nous vous demandons aussi, nous exigeons à Dieu des miracles, qu'il prouve qu'il est Dieu. Mais qui sommes-nous? Il est le souverain. Il est le maître. Et ces passages, cette parole nous parle aussi pour nous aujourd'hui. Les Juifs veulent des miracles. Mais dites, ils avaient 1500 ans. Depuis 1500 ans, ils avaient la loi. Depuis 1500 ans, ils opéraient les sacrifices, ils respectaient les ordonnances de Dieu. Et ils étaient là, sous la domination romaine, humainement. Pourquoi ne pas espérer le Messie, celui qui les sauverait, celui qui les libérait? C'est humain, c'est raisonnable. C'est pas excessif. Ils croient en un Dieu puissant. Ils ont juste oublié une chose. Ils ont juste oublié que pendant des siècles, ils ne l'ont pas adoré lui seul, mais bien d'autres dieux avec. Et que cela leur a valu la déportation, et que cela vaut aussi le silence de Dieu pendant 4 siècles, jusqu'à ce qu'il parle en envoyant l'Emmanuel. Nous sommes, nous aussi, nous pouvons être oublieux de cela. Nous pouvons être oublieux de la purification de nos anciens péchés. Ne soyons pas oublieux. C'est pas un reproche que j'adresse, mais une exhortation de tout mon cœur. N'oublions pas. Et ce matin, je crois que les prières vont dans ce sens. Oui, humilions-nous devant Dieu. Volontairement, pas par un truc encore une fois servile, mais Seigneur, je réalise que tu as fait. Je me rappelle d'où tu m'as sorti. Les Juifs veulent des miracles. Nous, des fois aussi, nous voulons des miracles. Et Dieu fait des miracles, la nouvelle naissance. Quel plus grand miracle! Dieu continue de guérir. Dieu continue de sauver. Dieu continue de restaurer. Dieu continue de remettre des vies en ordre et de les aligner. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et nous voulons le voir davantage et au milieu de nous. Gardons-nous d'exiger simplement de Dieu. Les Grecs cherchent la sagesse. Ah, la sagesse humaine, basée sur les pauvres et faibles rudiments de ce monde. Cet axiome, toutes ces bases de raisonnement sur lesquelles l'homme construit des édifices orgueilleux sans Dieu. C'est l'autre volet. Un premier volet, c'est le volet religieux. Le deuxième volet, c'est le volet de la sagesse de l'homme qui refuse, comprenons bien, qui refuse la dépendance à Dieu. Voilà le reproche de Dieu. Comprenons bien les choses. L'homme manifeste incontestablement une intelligence. J'allais dire, c'est normal, parce que qu'il le veuille ou non, il est une créature divine. Le problème n'est pas là, mais dans la volonté de s'affranchir de la dépendance à Dieu. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur cœur sans intelligence et ils se sont garés dans leurs pensées. Croyant devenir sages, ils sont devenus fous. On connaît bien ces thèmes. Ils sont devenus fous, mais ils ne reconnaissent pas. Et proclame folie qu'un homme puisse livrer sa vie pour d'autres hommes qui le méprisent et s'enfoncent ainsi dans l'incrédulité. Voilà le sens de cette expression. Les Grecs cherchent la sagesse et nous, nous proclamons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pour tous, juifs et païens et grecs. Je crois que nous avons là des choses. Il est la porte. Et vous voyez, il est la porte des deux, il ne fait qu'un, de ces deux peuples, de la tentation religieuse qu'il ne faudrait pas juger trop vite, et de la sagesse humaine qui nous éloigne de Dieu, il a offert pour tous Jésus-Christ. Enfin, et je voudrais aborder un point, cette porte, elle est étroite. La porte est étroite, mais Dieu peut nous y faire passer. Et là, je voudrais qu'on reprenne, on a ça dans Matthieu 7, au verset 13, 12 et 13. C'est un passage qui conclut diverses paraboles sur le royaume de Dieu. Ça commence par les béatitudes, et puis, vous savez, c'est tout ce passage où Jésus dit, « Il vous a été dit, mais moi je vous dis. » Et là, Jésus expose la constitution du royaume. Il expose la constitution du royaume. Il dit, aimez vos amis, condamnez vos ennemis, mais moi je vous dis, aimez même vos ennemis. Il vous a été dit que celui qui tuera son frère, etc., passera devant le Sanhédrin. Moi je vous dis que celui qui dit raca à son frère, qui lui dit qu'il traite d'imbécile, doit passer. L'exigence est beaucoup plus grande. Et donc en conclusion de tous ces passages, Jésus dit ceci. Tout ce que vous voulez, c'est des petites phrases simples, hein. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et il nous invite, entrez par la porte étroite. Car large est le porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Et il va poursuivre ce passage en disant tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père dans les cieux. À la suite de cette déclaration fondamentale, il décrit pourquoi le chemin est étroit. Parce que ce n'est pas qu'une histoire de parole, c'est une histoire de mise en pratique. C'est dans la suite de ce passage aussi qui dit la maison sur le sable, la maison sur le roc. La maison sur le sable, la maison sur le roc, vous savez, je le rappelle souvent, tous connaissent la parole de Dieu, tous connaissent les commandements, tous ont bien compris ce qu'il fallait faire. Les uns mettent en pratique sur le roc, les autres ne mettent pas en pratique sur le sable. Ils seront balayés. C'est en ce sens-là que la porte est étroite. On a encore une illustration de cette porte étroite par des travaux pratiques avec le jeune homme riche. Il a mis tous les commandements, mais Jésus va toucher le point difficile dans sa vie. C'était ses biens. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, encore une affaire de porte, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc tous ces passages de l'Écriture nous parlent de pratique, de la marche concrète, pratique et quotidienne qui va nous confronter à des impossibilités humaines. Et c'est cela que j'ai entendu dans des prières ce matin. Eh bien, je veux vous dire qu'il y a une solution, parce que lui peut nous faire passer, mais il faut reconnaître là aussi. Seigneur, je ne peux pas. Ce jeune homme riche, je ne sais pas ce qu'il est devenu. C'est sûr que là, Jésus ne l'a amené pas pour le coincer. Pour lui dire, voilà, il l'a passé au scanner. Il y a ça, là. Pour les uns, ça va être les richesses matérielles. Pour les autres, ça peut être les richesses intellectuelles. Pour les autres, ça peut être même sa dextérité. Il n'y a pas de problème. On a chacun des domaines. Tout ce qui, finalement, nous centre sur nous, ça a été aussi dit dans les prières. Il te manque quelque chose. Ou tu as quelque chose de trop encore qui t'encombre. Impossible à l'homme, mais possible à Dieu. Et là, pour que notre attitude, pour que Dieu puisse agir, c'est clair. C'est Seigneur. Et là, c'est un nouveau sens de s'humilier. Seigneur, voilà ça. Je suis obligé de le constater. On va lui dire, Seigneur. Il y a ce truc-là. Le jeune homme riche, finalement, c'est quoi son problème? C'est que ça, il n'a pas voulu le reconnaître. Le reconnaissant implicitement, puisqu'il s'en a l'air tout triste. Il savait donc, il aurait pu crier, Seigneur. Seigneur, il y a ça. C'est plus fort, c'est ma montagne. Par sa grâce, c'est ça. La grâce et la vérité. La vérité et la grâce qui permet de traverser. Là, il y a des portes importantes dans nos vies. Je crois que on touche là à des choses profondes, mais n'oublions pas que nous sommes l'Église de Jésus-Christ par lequel Dieu veut manifester sa richesse infiniment variée. Et le Seigneur veut nous amener un peu, peut-être, oui, vers cette porte étroite, mais pas infranchissable. Cette porte étroite où ayant avancé avec Dieu, ayant le salut. Il veut nous faire rentrer dans notre destinée. Mais là, la porte, elle est étroite. Je crois que c'est à cela. À ceux qui veulent entrer dans leur destinée, la porte est étroite, mais Dieu peut la faire franchir. Mais il faut reconnaître cela. Seigneur, il y a là des montagnes dans ma vie. C'est une montagne. Je n'avais pas la solution. Je rebute toujours sur cette affaire-là. Et je vois bien que je le sais au fond de moi-même. Alors, il faut le reconnaître. Nous humilier, c'est-à-dire reconnaître devant Dieu, ça je n'y arrive pas, mais Seigneur, c'est mon désir. Je veux te servir. Dieu ne met pas ça en doute. Notre volonté de le servir, de faire vraiment sa volonté, que son règne vienne, c'est notre volonté. Mais il y a là un obstacle. Est-ce que vous saisissez est-ce que certains vivent peut-être ces choses-là? Il y a là une parole vraiment d'espérance. C'est ma volonté. Je dis souvent, il y a des choses, Seigneur, je ne peux pas. Mais ce que je peux, c'est vouloir et le dire à Dieu. Et dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais écoute, j'ai le désir, mais je n'y arrive pas. Fais-moi passer, Seigneur, par où je ne puis passer, moi-même. On ne sait pas comment il va peut-être nous tordre un petit peu, mais il va nous y faire passer. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mais si on ne reconnaît pas ces impossibilités, il ne peut rien faire pour nous. C'est ça vraiment la vraie humiliation qui plaît au Seigneur. N'oublions pas que parce qu'il s'est humilié lui-même. Alors, le Seigneur nous aide à travers nos frères et sœurs, à travers des attitudes, puisque la croissance de chacun fait qu'on se blesse encore un peu, et donc un frère, une sœur va m'humilier. Bon, merci Seigneur. Mais là, bon, des fois ça demande 30 secondes ou une minute, des fois deux jours. Je vous en supplie que ça ne demande pas des années quand même, parce que pendant ce temps-là, on n'avance pas quand même. Mais là, il s'agit de s'humilier soi-même. C'est ce qu'a fait Jésus. Il n'avait aucune raison. Il n'avait aucune raison. Il n'avait pas commis de péché. Il n'avait rien fait de mal. Quelle raison avait-il? Il aurait pu, avec des discours bien construits et vrais bibliquement, et vrais devant Dieu, fermer la bouche de tous ses accusateurs. Il n'a pas bronché. Il n'a pas bronché. Il s'est humilié lui-même. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Voulions des fois l'élévation faisant l'économie de l'humiliation. Je terminerai en disant, la porte, elle est ouverte aujourd'hui, jusqu'à ce qu'elle soit fermée. Je vais prendre deux exemples. L'arche de Noé, Genèse 7, verset 15, « Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mais les femelles de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. » La porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est étroite. Elle est ouverte. Elle est Jésus-Christ. C'est par elle qu'on peut rentrer, elle seule. Mais la porte, elle est ouverte parce que c'est le temps de la grâce inaugurée à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Le voile est déchiré, mais qui va se refermer. Le temps de la grâce se refermera. Ésaïe nous prévient en Ésaïe 61, il se refermera le jour de colère. Ésaïe 61, nous l'avons beaucoup cité ces derniers temps, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Et Jésus s'arrête là lorsqu'il dit devant à la synagogue, lorsqu'il lit Ésaïe 61. Il s'arrête exactement ici, pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est son mandat quand il est venu sur cette terre. C'est ce mandat qui est prolongé par le Saint-Esprit dans les temps où nous sommes, dans les derniers temps. Et il ne prononce pas à ce moment-là la fin de la phrase d'Ésaïe 61, « et un jour de vengeance de notre Dieu ». Pourquoi elle ne le prononce pas ? Parce qu'il ouvre le temps de la grâce. Mais ce temps de la grâce prendra fin. Pour ouvrir une nouvelle ère, lorsque le Seigneur va régner. Mais ce ne sera plus le temps de la grâce. Donc aujourd'hui, nous, c'est le temps de la grâce. La porte est ouverte. Et ce n'est pas n'importe quelle porte, c'est Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus sur la porte et sur le linteau. Alors que ceux qui ne sont pas entrés puissent entrer. Puissent entrer. Je rappelle ce passage de l'Exode. C'est simple, il suffit d'entrer. Oh, c'est humiliant. Parce que si je dis, je vais entrer, je reconnais ma faiblesse, je reconnais que je suis perdu, que la mort, finalement, est sur ma vie. Parce que c'était le cas. Je rappelle que le peuple hébreu, en Égypte, avait fini par vivre un peu comme le peuple en Égypte. Et donc, c'est ça la grâce de Dieu. C'est ceux qui entrent, qui acceptent le sang de Jésus et qui entrent dans la porte. Et puis, pour ceux qui sont entrés, Dieu nous rappelle, vous êtes mes rachetés. Et mon sang continue à passer sous le portique. Je parlerai une autre fois des portes. Les portes à la ville. Les portes à la ville, c'est fait pour entrer aussi et sortir. Mais on n'entre pas et on ne sort pas n'importe comment. Pour entrer dans la Jérusalem, il faut passer par les portes. Parce que lorsque les murailles ont été détruites, mais on entrait n'importe comment là-dedans. Et ce n'était que souillure. Mais c'est un autre sujet, j'en parlerai plus tard. Ce matin que ceux et celles qui n'ont pas fait ce pas de franchir une première fois la porte, Jésus, la porte, il n'y a pas d'autre nom par lequel on puisse être sauvé. Et vous savez, ça m'a touché vraiment particulièrement cette semaine. Et je repense à ces obsèques de René. Mon cœur était touché. Parce que j'étais là avec des hommes et des femmes. Et ça m'a rappelé, j'ai vécu pendant 48 ans dans des choses religieuses. Et le Seigneur a touché mon cœur différemment. Je reconnais que pendant des temps, j'ai eu de l'amertume vis-à-vis de ce que j'avais vécu. Mais là, j'avais de la compassion. Parce que, comme va dire Pierre, je sais que vous étiez dans l'ignorance. Et nous avons le devoir de dire la vérité alors. Qu'il n'y a que cette porte, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a tout accompli. Alors, simplement ce matin, je ne vais pas faire un appel, on ne va pas demander aux gens de se déplacer. Mais si un seul se dit, moi ce matin, j'accepte de m'humilier et puis de dire j'ai besoin que le sang de Jésus me purifie, j'ai besoin d'un abri, mon seul abri c'est toi. Eh bien, tenez, est-ce que l'équipe de louanges pourrait venir et puis on va prendre ce chant, mon seul abri c'est toi, mon seul abri, c'est le premier pas pour rencontrer le Père, pour que ce besoin d'être aimé, qui n'est satisfait que par la présence du Père Céleste, eh bien, pour avoir cette présence, il faut venir à Jésus. Il n'y a pas d'autre choix. C'est très simple en même temps. Alors, ce matin, simplement, je n'avais pas prévu ça, mais je crois qu'on pourrait prendre ce chant. Mon seul abri, c'est toi. Seigneur, j'invite, avant de vous lever, sauf si ceux qui se lèvent, c'est pour dire, Seigneur, j'ai besoin de passer ce matin sous la porte, sous les linteaux, où il y a eu l'aspersion du sang, c'est ton sang qui a coulé. Seigneur, je m'humilie et je viens passer sous cette porte. et je crois, parce que c'est toi l'Éternel qui a dit cela, que si on passait et on acceptait ce sang, alors ce matin, s'il y en a un seul, oui, je vous demande là, simplement de lever votre main. Simplement de lever votre main. Simplement de lever votre main. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur.